de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir, voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le gouvernement encourage l'amélioration de la qualité des services aux touristes. Le président a déclaré que n'ayez jamais peur pour faire l'industrie en aval à cause de poursuites judiciaires. La ministre indonésienne de la Mendevco et l'ambassadeur de la République populaire de Chine améliorent les compétences et la formation professionnelle pour la République d'Indonésie. L'Indonésie applique la science comme solution pour surmonter la sécheresse. La Turquie se concentre maintenant sur le nettoyage des débris du tremblement de terre. Les frontières du Xinjiang avec le Kazakhstan et le Kyrgyzstan sont ouvertes. Voici le journal complet. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Kemenparekraf, a fait des efforts de collaboration avec un certain nombre de parties prenantes du tourisme pour maintenir la stabilité de l'industrie hôtelière pendant la pandémie. Cette collaboration a réussi à augmenter le nombre d'occupations des chambres d'hôtel jusqu'à 50%. Dans le bref hebdomadaire avec Sandy Uno, lundi 20 février à Jakarta, le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré que le résultat était un optimisme. Il continue également à encourager l'augmentation de la qualité du service aux touristes, dont l'an et avec la certification CHSE, propriété, santé, sécurité, environnement durable.
Ini adalah sebuah optimisme, namun ini kita tidak boleh terlena, harus kita dorong terus.
C'est un optimisme et nous ne devons pas être complaisants et nous devons continuer à pousser pour cela afin que l'amélioration de la qualité du service, la certification CHSE avec nous en collaboration avec BSN puisse encourager une amélioration supplémentaire des services aux touristes. Par ailleurs, Sandiaga Uno a révélé que le taux d'occupation des chambres d'hôtel continue d'augmenter. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative fait également pression pour des réglementations sur l'ajout des jours fériés nationaux qui sont censés encourager une augmentation du nombre d'occupations hôtelières. En outre, selon lui, le ministère du Tourisme et de l'Économie créative facilite également l'accès au capital des hôteliers, notamment des hôtels non étoilés, pour développer leur activité. Le président Joko Widodo a dit à toutes les parties de ne pas avoir peur de faire l'industrie en aval pour obtenir de la valeur ajoutée juste à cause d'un procès dirigé contre l'Indonésie. Dans sa directive lors de l'inauguration de l'organe directeur central de l'Association indonésienne des jeunes entrepreneurs, HIPMI, pour le mandat 2022-2025 à Jakarta, lundi, Le président a déclaré que les industries en aval apportent une énorme valeur ajoutée. Par exemple, l'écosystème des batteries de véhicules électriques et l'industrie automobile électrique. Il a souligné que même si le défi de l'aval industriel n'était pas facile, l'Indonésie n'arrêtera pas. La ministre indonésienne de la main-d'œuvre, Ida Fauzia, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine, RPC, en Indonésie, Lu Kang, ont travaillé ensemble pour améliorer les compétences et la formation professionnelle en Indonésie. Comme cité d'Antara, cela a été révélé lorsqu'Ida Fauzia a reçu Lu Kang au ministère de la main-d'œuvre lundi, qui a discuté d'un certain nombre de questions dans le domaine de l'emploi. Il a déclaré que sa partie avait déjà coopéré avec plusieurs entreprises chinoises, notamment en matière de développement des capacités et d'amélioration des compétences. Plusieurs entreprises qui ont déjà des accords de coopération sont engagées dans le traitement du minerai de nickel ainsi que dans le service de télécommunication. Elle expliquait qu'actuellement, sa partie envisageait de coopérer avec le gouvernement de la RPC pour organiser un salon de l'emploi conjoint impliquant des entreprises chinoises en Indonésie. Le phénomène de la sécheresse qui se produit à la suite du changement climatique est de plus en plus répandu dans divers pays du monde, causant de graves problèmes au secteur agricole pour fournir de la nourriture aux populations. Cité d'Antara, le chef de l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, BMKG, Dwi Korita Karnawati, lundi à Jakarta, a déclaré que les solutions fondées sur la science étaient en effort pour atténuer la sécheresse en Indonésie. Selon elle, une solution scientifique en appliquant la technologie de modification du temps est mise en œuvre pour forcer la pluie à remplir les réservoirs, les barrages et les terres sèches, afin que la saison sèche n'ait pas un effet grave sur la sécheresse. Dwi Korita a déclaré que sa partie, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Forêts, avait préparé une technologie de modification du temps qui serait mise en œuvre de fin février à mai 2023. En outre, le BMKG s'est également coordonné avec le ministère de la PUPR pour ajouter davantage de puits forêts dans le but d'atténuer la sécheresse. En plus de travailler avec un certain nombre de parties prenantes, Dwi Korita encourage également l'implication de la communauté à travers l'autonomisation. La Turquie met désormais tout en œuvre pour nettoyer les débris des bâtiments qui se sont effondrés lors du tremblement de terre après que l'opération de sauvetage des victimes a été déclarée terminée. L'opération intervient 2 semaines après le tremblement de terre dévastateur du 6 février qui a tué plus de 46 000 personnes dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Comme cité d'Antara lundi, l'Agence turque de gestion des urgences et des catastrophes, AFAD, a révélé qu'environ 13 000 unités d'excavatrices, grues ou grues hautes, camions et autres équipements lourds avaient été déployés dans la zone de tremblement de terre. La FAD indique que le nombre de morts en Turquie est passé à 41 020 personnes. Ce chiffre devrait continuer à augmenter étant donné que 385 000 appartements dans le pays ont été détruits ou gravement endommagés, tandis que de nombreuses victimes sont toujours portées disparues. Les 3 points de passage frontaliers de la région autonome de Xinjiang dans la région du nord-ouest de la Chine avec le Kazakhstan et le Kyrgyzstan ont commencé à s'ouvrir à la circulation des personnes lundi. Cité d'Antara lundi, les autorités de Xinjiang ont déclaré que les usagers des transports terrestres pouvaient déjà passer par deux sorties vers le Kazakhstan depuis Alasanku et Baketu, Xinjiang. De même, le poste frontière de Torugar est praticable pour les frontaliers se dirigeant vers le Kyrgyzstan. L'ouverture des 3 frontières est la deuxième politique adoptée par les autorités de Xinjiang pour donner suite au déclassement du statut de gestion de la pandémie de COVID-19. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le commentaire ayant pour le titre La journée internationale de la langue maternelle. Le début de la présence de la journée internationale de la langue maternelle est intervenu lorsque la diaspora bangladaise, Rafiqul Islam, a écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU pour sauver les langues du monde de l'extinction. Ensuite, lors de la session de l'ONU du 17 novembre 1999, lors de la session de la conférence générale de l'UNESCO, il a été déclaré que le 20 février était désigné comme la journée internationale de la langue maternelle. La date était choisie parce qu'à cette époque, il y a eu un incident de meurtre dans la lutte pour la langue bangli à Dhaka, au Bangladesh, en 1952. En ce qui concerne la langue maternelle, ou la première langue utilisée par les locuteurs pour communiquer, il existe actuellement de nombreux revers. Les Nations Unies ont indiqué que plusieurs langues se dirigent vers et connaissent l'extinction. En 2023, avec le thème « Éducation multilingue, une nécessité pour changer l'éducation » qui a été proclamée par l'UNESCO lors de la Journée mondiale de la langue maternelle, on espère que les cours de langue maternelle pourront exister et être acceptés par les utilisateurs ou les locuteurs natifs de leur langue maternelle. Avec ce thème, on espère que chaque pays innovera pour que l'extension des langues maternelles puisse être ralentie ou réduite et développée. Dans une interview spéciale avec Voice of Indonesia, le chef de l'Agence pour l'entraînement et le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, professeur Endang Aminuddin Aziz, a déclaré que ce que l'on entend par l'éducation multilingue, c'est le rôle des autres langues afin que les élèves puissent mieux comprendre leur langue maternelle. Cela signifie que l'utilisation d'une deuxième langue pour expliquer la langue maternelle est une nécessité dans le processus d'apprentissage en classe. Surtout avec la génération actuelle, la génération Z et la génération Alpha. En outre, il ne nie pas non plus que l'existence de la technologie a également en effet sur le déclin de l'utilisation de la langue maternelle dans la vie quotidienne. Professeur Endang Aminuddin Aziz a également déclaré que selon les dernières données dont il dispose en 2020, seuls 76% des locuteurs de la langue maternelle ou des langues régionales en Indonésie et 73% des 76% se produisent à l'intérieur de la maison. Et sur ces 76%, 61% sont des locuteurs de la génération Z et Alpha ou des générations nées entre 1996 et 2010, où cette génération est très dépendante de la sophistication technologique. L'un des efforts déployés par l'Agence d'entraînement et de développement des langues pour faire face au déclin des locuteurs de la langue maternelle consiste à mobiliser tous les bureaux d'unités de mise en œuvre des tâches dans 30 provinces pour réaliser des innovations multiplateformes dans l'enseignement des langues locales dans chaque province. L'existence de cette agence linguistique est très importante dans la mise en œuvre de l'apprentissage de la langue indonésienne en tant qu'identité nationale ainsi que des langues régionales dans le soutien à l'existence de locuteurs quotidiens. En tant que forme de traduction et de maintien de la langue indonésienne en tant qu'identité nationale, il existe actuellement des centres d'apprentissage de la langue indonésienne dans 53 pays avec du matériel indonésien pour les locuteurs étrangers ou BIPA. Dans la continuité de l'indonésien comme langue nationale, la présence de la langue maternelle joue un rôle majeur dans l'enrichissement, je veux dire dans l'enrichissement de la variété et du vocabulaire indonésien. Il n'est donc pas surprenant qu'en ce moment, l'Indonésie et l'UNESCO se battent pour que l'indonésien fasse partie des 6 autres langues parlées lors de la réunion officielle de l'UNESCO à Paris. S'il est accepté, il est peu probable qu'il devienne la langue officielle de l'Assemblée des Nations Unies à New York. De plus, avec une population de plus de 250 millions d'habitants et qui peut être parlée régionalement dans les pays membres de l'ASEAN, c'est la clé de la présence de l'indonésien dans le monde international. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 20 février 1972. Luna 20 a atterri sur la Lune. Luna 20 est la deuxième mission la plus réussie des trois missions d'atterrissage de faisceau spatial sur la Lune par l'Union soviétique. Luna 20 est entrée dans l'orbite de la Lune le 18 février 1972 et le 21 février 1972. Luna 20 a atterri sur la Lune dans une région montagneuse connue sous le nom de Terra Apollonius. Lors de retour sur Terre le 22 février 1972, Luna 20 a réussi à transporter 30 grammes d'échantillons de sable et des roches de la Lune recueillies dans une capsule scellée. Passons maintenant à l'événement du 20 février, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée pour la première fois. La Journée internationale de la langue maternelle est célébrée dans le monde entier tous les 21 février pour sensibiliser la diversité linguistique, la culture et le multilinguisme. L'UNESCO a désigné par la Journée mondiale de la langue maternelle le 17 novembre 1999 et officiellement fixée par l'Assemblée générale des Nations Unies par la résolution publiée en 2008. La résolution a été proposée par Rafiqul Islam, un résident de Bengali qui vit à Vancouver, au Canada. Il a écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, à sauver les langues maternelles d'extinction en déclarant la Journée internationale de la langue maternelle. Rafiq a demandé commémoratif tenu tous les 21 février en même jour avec la journée de la commémoration du mouvement de la langue au Pakistan, pour commémorer les manifestations et les sacrifices pour protéger le Bengali comme langue nationale pendant le règne du Pakistan en 1952. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée nationale de sensibilisation aux déchets. La Journée nationale de gestion des déchets, HPSN, le 21 février a été proclamée par le ministère d'État chargé de l'environnement. En 2006, le ministère d'État de l'environnement a proclamé le 21 février Journée nationale de sensibilisation aux déchets. Cette commémoration est en mémoire de la catastrophe des déchets à Le Wigaja, Chimay, Java Occidental, le 21 février 2005. Le malheureux incident s'est produit en raison de fortes précipitations et d'une explosion de gaz méthane sur un tas d'ordures. En conséquence, 157 personnes ont été perdues et deux villages, à savoir Chirimus et Pojok, ont été perdus de la carte en raison d'avoir été renversés par le glissement des ordures provenant du site d'élimination finale de Le Wigaja. C'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie, intitulée « Indonésie invite le Canada à développer un écosystème de véhicules électriques dans l'ASEAN ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, l'Indonésie invite le Canada à collaborer avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, pour développer un écosystème de véhicules électriques dans la région. Le directeur de la coopération ASEAN du ministère des Affaires étrangères, Siddhartho Suryodipuro, à l'ambassadrice du Canada en Indonésie et au Timor oriental, Nadia Berger, lors d'un séminaire organisé par le Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS à Jakarta vendredi 17 février, a déclaré que le Canada joue un rôle important dans le domaine de la transition énergétique qui peut soutenir l'Asie du Sud-Est en tant que centre de croissance économique. Comme cité sur la page Antara, le 17 février, Siddhartho a déclaré que le Canada a un potentiel important dans le domaine de la transition énergétique, ayant d'importantes ressources minérales telles que le cobalt et le lithium. Selon Siddhartho Suryodipuro, le Canada peut soutenir et collaborer dans la région de l'Asie du Sud-Est pour développer certains domaines tels que l'écosystème de véhicules électriques pour lequel on se bat, ainsi que les énergies renouvelables. Siddhartho avait précédemment déclaré que les pays membres de l'ASEAN avaient entamé des discussions concernant le développement de l'écosystème des véhicules électriques dans la région. Selon lui, les pays membres de l'ASEAN partagent le même point de vue concernant l'écosystème des véhicules électriques. Ainsi, chaque producteur a une vision régionale et ne se concentre pas uniquement sur le marché national. Il a expliqué que l'Indonésie a un avantage comparatif, peut-être même compétitif dans le domaine des véhicules électriques. Selon lui, en tant que l'une des régions avec la plus grande économie du monde, l'Asie du Sud-Est devrait être en mesure de créer sa propre norme. Siddhartho a également déclaré que les fabricants actuels de véhicules électriques tels que la Chine, la Corée du Sud ou l'Amérique du Sud ont des normes différentes. Même que se passerait-il si l'Asie du Sud-Est créait ses propres normes que d'autres pays suivraient également? Selon lui, l'Indonésie a bon espoir que l'ASEAN puisse également devenir un lieu où fixer des normes. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN se sont réunis à Jakarta au début du mois pour discuter des priorités de leadership et de la présidence de l'Indonésie au sein de l'ASEAN cette année. L'Indonésie a proposé 4 aspects principaux, dont l'un est la sécurité énergétique. Pendant ce temps, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a révélé que l'Indonésie proposerait un résultat qui encouragerait la région de l'ASEAN en tant que centre de croissance, assurerait la sécurité énergétique pour soutenir la transition des énergies fossiles vers les énergies propres et renouvelables, entre autres en développant un écosystème de véhicules électriques dans la région. Bon chargé tard, c'est tout mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la fête traditionnelle de Reba. Le 19 février, des milliers de personnes de Ngada à Jakarta ont célébré leur fête traditionnelle ainsi que des rituels religieux nommés Reba au pavillon Nusa Tenggara Est, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Oriental. Portant le thème « Prendre soin de la tradition, créer l'harmonie ». La fête traditionnelle de Reba 2023 s'est tenue hors ligne. Après les deux années précédentes, il s'est tenu de manière limitée en raison de la pandémie de COVID-19. La fête traditionnelle de Reba est la plus grande fête traditionnelle de gratitude pour l'amour et la gentillesse de Dieu, c'est Deva Zeta Nitu Zale à la communauté Ngada depuis des milliers d'années. Reba est généralement célébré de janvier jusqu'à février, coïncidant avec la saison des pluies. Pour la date de mise en œuvre, Reba est déterminée sur la base d'un calendrier traditionnel appelé Pakisobi ou l'année Sisir, sous les instructions d'un Mori Kepofesu, ses détenteurs coutumiers. La célébration de Reba a généralement trois étapes principales. La première étape est Reba Lanu. Cette étape est l'ouverture de la cérémonie Reba dans chaque tribu. Reba Lanu est effectuée à l'extérieur du village, pour être précise, dans les jardins appartenant à chaque tribu. Le but de cette cérémonie est d'honorer les ancêtres. L'étape suivante est Deki Reba. Tous les résidents se rassemblent avec l'intention et la promesse de leur cœur. Des familles de divers endroits viennent apporter de l'argent, des animaux sacrificiels, du riz et des boissons traditionnelles en offrande à leurs ancêtres. Les objets apportés sont des expressions de gratitude et de remerciement pour la subsistance, la protection et la longue vie qui ont été obtenues. Le bétail sacrificiel de poulet et de porc est abattu selon la coutume par le chef coutumier. Autrefois, ce n'était pas des animaux sacrificiels qui étaient abattus, mais des tubercules qui, dans la langue locale, s'appelaient oui. Oui est compris comme un don de Dieu dans la vie du peuple de Ngada. La patate douce est amenée au milieu de la cour, mangée ensemble en dansant et en chantant autour du village. Le reste de la patate douce est mis dans la maison comme préparation pour manger avec leurs familles respectives. Dans les années 1900, lorsque le riz a commencé à être cultivé, Reba ne servait plus d'ouïe, mais divers types de nourriture, tout en conservant le menu traditionnel, à savoir le riz, la viande d'animaux sacrificiels et la boisson traditionnelle, le vin. La dernière étape à Reba est le Kobe Doi, où tous les membres de la famille se réunissent le soir pour la fête de Reba. Tulare Sidang Maos Ensemble. Sesami setelah rubrik magazine kultural de la voix de l'Indonesie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Kami Mohon Maaf. Kami Mohon Maaf. Nous sommes désolés. Bonne écoute. Serge Vittar, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Nous sommes désolés. Cette conversation a eu lieu entre Dev Singh, un touriste indien, et un technicien d'hôtel. Dev lui pose des questions sur les installations de l'hôtel. Bonne écoute.
Lampunya sudah menyala. Kami mohon maaf.
Tidak apa-apa. Terima kasih.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Nous sommes désolés. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Kami. Kami. Nous. Maaf. Maaf. Excuse. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Nous sommes désolés. Kami minta maaf. Kami minta maaf. Nous sommes désolés. Kulkas. Kulkas. Frigo. Réfrigérateur. Kamar. Kamar. Chambre. Tidak dingin. Tidak dingin. N'est pas froid. Kulkas di kamar tidak dingin. Kulkas di kamar tidak dingin. Le frigo ou le réfrigérateur dans ma chambre ne fonctionne pas. Lantai kamar. Lantai kamar. Le sol de chambre. Lantai kamar tidak bersih. Lantai kamar tidak bersih. Le sol de chambre n'est pas propre. Restoran. Restoran. Restaurant. Sudah tutup. Sudah tutup et fermé. Restoran sudah tutup. Restoran sudah tutup. Le restaurant est fermé. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ce n'est pas rien. Tidak masalah. Tidak masalah. Ce n'est pas grave. Chers amis, au cours de la conversation, vous avez entendu l'expression Kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Nous sommes désolés. Dans cette phrase, il y a l'expression Kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Nous sommes désolés. Et mohon maaf, désolé, pour exprimer des excuses parce que la lampe sur la table n'est pas allumée. Dans cette expression, la partie s'excusant, kami, kami, nous, suivie de l'excuse. Mohon maaf, nous sommes désolés. Chers amis, et voici un autre exemple. En plus de mohon maaf, mohon maaf, désolé, l'expression pour s'excuser est minta maaf, désolé. Par exemple, kami minta maaf, nous sommes désolés. Kulkas di kamar tidak dingin, kulkas di kamar tidak dingin. Le frigo ou le réfrigérateur dans ma chambre ne fonctionne pas. Vous pouvez également utiliser l'expression maafkan, maafkan. Pardonner, suivi de la partie qui s'excuse. Par exemple, maafkan saya, pardonnez-moi. Lantai kami tidak bersih. Lantai kami tidak bersih. Le sol de la pièce n'est pas propre. En réponse à des excuses, vous pouvez utiliser l'expression tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ce n'est pas rien. Ou ce n'est pas grave. Ou tidak masalah. Tidak masalah, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas rien. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Lampunya sudah menyala. Kami mohon maaf.
Tidak apa-apa. Terima kasih.
Chers amis, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu. Oh apakah yang membuatmu jadi berubah, berubah, jadi berubah, berubah. Semakin luntur, semakin menjauh. Berlari dariku, tak jelas lagi. Cintamu padaku terasa hambar, semakin berkurang. Apa yang ada di hatimu, di cintamu, ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu. Oh apakah yang membuat jadi berubah, berubah, jadi berubah, berubah. Semakin luntur, semakin menjauh. Berlari dariku, tak jelas lagi. Cintamu padaku terasa hambar, semakin berkurang. Sama menghilang, kau redup perlahan pudar, tak indah lagi seperti pertama yang aku kenal.
Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33 de 5 kHz et sur le site web www.voiceofindonesia.com. www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois-ci, je vous présente une chanson malaise intitulée Zapin Batam, chantée par Siti Fatima. La chanson dont le titre est Zapin Batam a été composée par Buralimar. Les paroles parlent de Batam où Hang Nadim est entré dans l'histoire. Les paroles disent que Batam a des gens qui sont obéissants pour le culte. Cette ville est aussi une destination pour les gens qui veulent gagner leur vie. Nous espérons que toute personne vivant à Batam pourra maintenir ses coutumes, ne pas tenir la ville de Batam et respecter la charia. Bon, chers auditeurs, voici Zapin Batam de Siti Fatima. Bonne écoute!
Negeri kami, negeri kami, negeri
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.